Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien comme un podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Éric Bouchard-Desruisseaux, tentons de mieux comprendre certains enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on tentait de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile de mieux et moins consommer. Donc on a été très bien accompagné par Mme Laure Solet, qui est professeur à l'Université Laval en sciences de la consommation.
Yes.
Je vais faire un petit topo de notre rencontre avec Laure.
Ben merci, Éric. Très bien fait. Écoute, je prends le relais, là. En gros, vous mettez de l'avant quelques éléments qu'on a abordés dans l'épisode. Puis on va vous laisser sur votre foin parce que ça en vaut la peine, cet épisode-là. Là. En gros, on a parlé d'abord un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde, tout ce qui touche à la consommation, quels sont les indicateurs qui existent. Fait qu'on a parlé notamment en Europe, ils sont un petit peu plus avant-gardistes à ce niveau-là. Fait qu'il y a des façons d'aller remarquer visuellement avec des indicateurs concrets sur les biens de consommation, c'est quoi justement l'impact des différents biens de consommation qu'on va acheter, que ce soit à l'épicerie, que ce soit d'autres éléments dans notre vie courante. Puis aussi, c'est notre conclusion de l'épisode, je pense. Mais tu sais, en gros, là, l'idée, c'est que souvent, l'être humain, on a tendance à être paresseux, on a tendance à tomber dans nos habitudes facilement. Tu sais, ce qu'on a parlé avec Laure, c'est beaucoup de se dire, faut pas hésiter à questionner justement nos choix, nos habitudes, nos décisions. Justement, encore une fois, des exemples concrets de ça, c'est ben nos déplacements, notre alimentation. Fait que tu sais, pas prendre pour acquis que je prends ma voiture, pas prendre pour acquis que je vais manger de la viande ce soir. Juste de se questionner, puis d'éviter de faire des changements de A à Z, de juste faire des petits changements au fur et à mesure dans sa vie. Puis c'est ça au final là, qui va faire une différence. Fait que c'est pas mal ça, je pense.
Bien résumé.
Yes.
Donc, bonne écoute tout le monde.
Bonne écoute.
Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Ursé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Ursé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Ursé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Ursé et bonne dégustation.
On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien comme un podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC ou décapeur.com pour découvrir leur service puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie.
Bonjour, Laure Solet. Bienvenue à Bien comme un podcast.
Bonjour.
Ça va bien?
Mais ça va bien, je suis ravie d'être là.
Oui, ben, on est ravis de te recevoir sur le plateau. Aujourd'hui, on veut mieux comprendre pourquoi est-ce si difficile de mieux et moins consommer. Donc, ça va être la question directrice pendant l'épisode. Mais tout d'abord, commence par une présentation de toi-même pour qu'on ait une meilleure idée de ton background puis de ton expertise.
Oui, alors moi, je suis actuellement professeure titulaire à l'Université Laval dans un département d'économie agroalimentaire et de sciences de la consommation. Donc moi, je suis experte en sciences de la consommation et je suis économiste. Et donc, je travaille sur vraiment les choix de consommation. Et puis, juste pour répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est difficile, ça fait partie de mes sujets de recherche. Sinon, j'ai une formation, j'ai un doctorat en économie. Vraiment qui est économie de la consommation, donc je m'intéresse à ça. Et j'ai aussi une maîtrise en économie de l'environnement et des ressources naturelles. Donc ce qui fait que j'ai l'aspect consommation, puis j'ai aussi l'aspect ressources naturelles, voilà. Et puis je suis aussi ingénieure agroalimentaire, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les choix de consommation alimentaire. Donc je vais donner peut-être des exemples sur l'alimentation, mais aussi je travaille plus largement sur tout ce qu'on consomme finalement, pas juste des aliments.
Super. Bon, en bref, ce que j'en comprends, c'est que tu es super compétente pour répondre à notre question guide aujourd'hui. Moi, j'étais curieux d'entrée de jeu. Mettons, au Canada, peut-être au Québec plus particulièrement, on se positionne, par exemple, ailleurs dans le monde, d'autres pays, peut-être d'autres continents, en matière de consommation d'un point de vue général, peut-être aussi faire des parallèles avec l'énergie. C'est sûr, est-ce qu'on consomme plus qu'ailleurs, par exemple, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Asie, de quelle façon, dans quelle mesure?
Oui, bah alors ça, c'est à la fois une question qui paraît simple, puis en fait qui est très, très compliquée, parce que ça dépend de ce qu'on consomme, évidemment. Hein. Donc c'est vrai que l'angle de l'énergie, c'est intéressant de regarder ça par l'angle de l'énergie, parce que bah, y a de l'énergie dans tout ce qu'on consomme. Et là, si on regarde quelle est la consommation des Canadiens en énergie, par rapport au reste du monde, on est plutôt dans la moyenne très, très haute. Hein. On consomme beaucoup d'énergie au Canada. Après, il faut regarder quel type d'énergie on consomme. Okay. Hein, on consomme beaucoup d'énergie en plus fossile. Aussi de l'énergie hydroélectrique, ce qui fait la particularité du Canada. Et puis, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu différent au Québec, où là, on consomme surtout... notre électricité, elle est très hydroélectrique, ouais. En grande partie, quasiment à 100%, ce qui fait notre particularité. Alors après, ce qu'on regarde, donc, c'est notre consommation, oui, elle est largement supérieure. Hein, je crois que c'est un des pays dans lesquels on consomme le plus d'énergie par habitant. Et puis là aussi, il faut regarder ce que ça veut dire. Donc on peut regarder la consommation d'un ménage. Donc on va regarder combien d'électricité ou de pétrole tu vas utiliser chaque année pour faire fonctionner ta voiture, ta maison, ouais. Chauffer, etc. Donc ça, c'est un chiffre qu'on a. Mais on voit aussi beaucoup, puis vous verrez peut-être dans l'actualité, on nous dit un consommateur canadien consomme 3 fois plus que la moyenne mondiale. Puis ça, cette consommation-là, elle intègre aussi les activités économiques du Canada. Donc c'est, en fait, on prend toute la consommation d'énergie du Canada, puis on divise par le nombre d'habitants.
Ah, okay.
Puis on a deux trucs, nous, au Canada, qui sont spécifiques, c'est qu'on a une petite population pour un très grand territoire, et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extraction de pétrole, etc., de gaz naturel, donc ça fait que là, on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie, mais intégrant, voilà.
Mais ça comporte, mettons, par exemple, les industries?
Oui. Les industries, et puis donc on a quand même un fort secteur pétrolier dans certaines parties du Canada. Alors après, il y a une autre façon aussi de regarder ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça nous donne aussi une autre information sur la façon dont on consomme.
Ça, c'est plus l'impact qu'on aurait sur l'environnement.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on peut consommer beaucoup d'énergie, mais si c'est de l'énergie renouvelable, l'impact environnemental est plus faible.
Absolument.
Donc, il faut venir quantifier ça.
Voilà. Et là, si tu regardes ça... et que tu compares le Québec avec le reste du Canada, tu vas voir que le Québec est très, très en dessous de la moyenne canadienne. Ça, c'est la première chose.
En termes d'émissions de...
En termes d'émissions de gaz à effet de serre.
À cause de l'hydroélectricité.
Grâce ou à cause, effectivement, l'hydroélectricité, qui occupe une part très importante de nos sources d'électricité et d'énergie au Québec.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Canada est dans le top 10, on va dire, de la consommation. Si on regarde juste le Canada en matière générale, la consommation par les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont très, très, très élevées. L'Amérique du Nord, en manière générale. Donc, le Québec paraît un bon élève par rapport au reste du Canada, parce que là, évidemment, on a vraiment un gros décalage. À nouveau, hein, après, on se compare. Ouais. Par rapport à la moyenne mondiale, même si au Québec, on est meilleur que les Canadiens, on n'est quand même pas bon.
Voilà,
donc, on est quand même au-dessus de la moyenne mondiale. Il y a des pays dans lesquels il n'y a quasiment pas d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, puis nous, on en a quand même beaucoup.
Ça serait quel pays, ça? On a-t-il un exemple?
Les pays dits en développement. Hein, puis, notamment, si on regarde l'Inde, par exemple, l'Inde, le Pakistan, qui ont beaucoup, beaucoup de population.
Ouais, très dense.
Par habitant, leurs émissions de gaz à effet de serre sont quand même assez faible. Nous, on a quand même ici... alors, au Canada, c'est vraiment très, très mauvais élève, hein, l'émission de gaz à effet de serre par habitant. Et puis, même au Québec, où on est un peu meilleur, on est quand même... En fait, on est équivalent au Québec à la moyenne européenne. Union européenne, en tout cas, ça va vers le mieux, mais c'est quand même très élevé.
Puis je suis curieux, mettons, cette valeur-là, tu sais, de comportement énergétique, si on le veut, du Québec et donc l'Union européenne, c'est similaire, par rapport à, mettons, la Chine ou l'Asie, c'est dans quelle mesure qu'on est, je sais pas, 10 fois plus énergivore que...
Non, c'est pas 10 fois plus. C'est ça, il y a tellement de façons de compter que c'est un petit peu... Voilà, c'est assez difficile à dire.
De quel emploi est l'accord?
Ça, je ne saurais pas le dire. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts.
Ouais.
Donc, je préfère pas dire de bêtises.
Ouais.
En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'en Chine, ça augmente beaucoup. En tout cas, il y a le risque que ça augmente beaucoup parce que c'est un pays qui s'est développé très rapidement dans les dernières décennies. Donc, il y a eu comme une espèce de passage, une transition. Mais maintenant, la Chine est en train de prendre des mesures assez drastiques parce qu'ils ont pris conscience aussi de ce problème d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, là, en ce moment, on parle beaucoup de la COP29. Bah, ça fait partie des éléments où on se dit peut-être qu'il y a moyen de réduire quand même les émissions planétaires, parce que ces pays-là ont pris conscience du problème. Et donc, peut-être qu'ils ne vont pas prendre la même trajectoire que nous, on a prise à un moment donné, puis qui nous a amené où on est.
Mais typiquement, actuellement, les pays développés vont émettre plus de CO2 qu'un pays en voie de développement ou qui est un pays qui
oui,
est, qui est
quand
pas
même,
développé.
Ouais. Par rapport à... Et puis, c'est vraiment le débat à la COP29, voilà, COP de manière générale. Hein, c'est que finalement, nous, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. On en émet quand même toujours beaucoup par habitant à cause de nos modes de vie. Hein. Ouais, et puis, y a des pays qui sont en développement qui se disent, nous aussi, on veut... Là, c'est notre tour là, d'atteindre le niveau de consommation.
C'est légitime, dans un sens. Là.
Ça, en tout cas, c'est légitime. C'est compréhensible tout à fait. Puis on se dit, on va dire, maintenant, passer directement à la voiture électrique, etc. Ouais, mais c'est-à-dire, nous, on est passé à travers un confort de vie, etc., qui est quand même énorme. Donc, ces pays-là, c'est légitime qu'ils nous demandent de faire plus d'efforts pour améliorer les choses.
Ouais. Donc là, en ce moment, si on revient au Québec, par exemple, on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de biens de consommation aussi.
Oui.
Est-ce qu'on est conscient de l'impact environnemental de cette consommation-là? Ou c'est acquis, puis on n'y pense pas trop? Ça ressemble à quoi du point de vue du consommateur?
On est conscient, mais ça ne se traduit pas forcément dans des comportements. Ah, c'est-à-dire que, à nouveau, ça dépend de comment on regarde la question. Si on regarde les enquêtes d'opinion, par exemple, au moment des élections, il y en a une au moment des élections fédérales, les dernières qu'il y a eu, on demande aux Canadiens ou aux Québécois, là, c'est quoi votre préoccupation principale? Puis, en général, l'environnement arrive très, très haut, voire en premier.
Hein. Okay.
Bon, alors maintenant, ça a peut-être un peu changé parce qu'il y a eu la crise économique. Donc, c'est vrai que des choses comme les prix, etc., qui étaient peut-être deuxièmes, sont passées devant l'environnement. Mais on est quand même très, très haut. Okay. Et pourquoi? Parce que ça se voit, hein, les changements climatiques, là, maintenant, là, on les voit, on les sent, il y a des inondations, il y a des feux de forêt, etc. Puis on en vit beaucoup au Canada, donc les gens se disent qu'ils sont très, très préoccupés. Par contre, après, quand ils arrivent au supermarché, ils ne vont pas forcément faire des choix de consommation qui vont refléter ces préoccupations.
Les babines ne suivent pas toujours les bottines.
Exactement. Okay. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est tout à fait ça. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que les gens s'en moquent complètement. Et puis, en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la plupart des gens, des citoyens, sont quand même conscients, dans une certaine mesure, qu'il y a un problème et puis qu'il y a des choses qui se passent.
Okay. Mais avez-vous des pistes? Qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait que, mettons, moi, c'est bon, je suis convaincu et sensibilisé à la cause environnementale, mais que ça ne se répercute pas dans mes choix du day-to-day à chaque jour quotidiennement, dans le fond? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y a un gap, il y a une différence entre ces deux éléments-là?
C'est quoi les critères de sélection d'un consommateur quand il arrive à acheter quelque chose?
Mais je dirais il y a plusieurs aussi niveaux de réponse. Hein. Là, ce dont on parle là, c'est vraiment, je suis à l'épicerie, puis j'ai le choix entre, mettons, une option qui émet peu de gaz à effet de serre, on va simplifier, puis une option qui en émet beaucoup. Bon. Okay. Puis mettons
de la viande rouge ou de la viande
mettons de poulet. De la viande rouge versus du poulet ou des lentilles.
Des lentilles, c'est
okay?
ça. Ouais.
Bon, qu'est-ce qui va intervenir directement dans mon choix? C'est quoi quand vous allez à l'épicerie, c'est quoi que vous regardez?
Le prix, certainement.
Le prix. Puis vous allez regarder peut-être la date limite de consommation.
Ouais.
Donc des
ouais.
trucs très, très observables directement, faciles à évaluer. Okay, ça, c'est la première chose. Puis qui vous intéresse dans l'immédiat. Par exemple, vous arrivez dans le supermarché, ça sent le steak. Là, vous avez super envie de manger de la viande rouge. Et puis là, votre priorité, ça va devenir les aspects sensoriels, ce que vous avez envie, ce que votre corps vous dit qu'il a envie de manger. Et puis, si le prix vous convient, vous allez prendre ça, puis ça va être ça vos critères. Est-ce que pour autant, vous êtes une mauvaise personne qui ne se préoccupe pas de l'environnement? Non, c'est juste que le critère environnement, il est passé un petit peu en dessous du tapis. Là. Alors, on l'explique, nous, en étude du comportement du consommateur, hein, par une espèce... Moi, ce que je dis, c'est un combat à armes inégales entre des caractéristiques qui sont immédiatement disponibles au moment de l'achat. Okay. La viande, je vois qu'elle est belle, elle a une belle couleur rouge. Ouais. Je vois son prix, c'est facile, c'est marqué, c'est écrit dessus. Je vois sa date de consommation, je peux tâter, voir ses propriétés. Là, voilà. Ça, c'est facile à évaluer. C'est direct, puis c'est, je dirais, c'est à l'avant de mes préoccupations au moment où je suis en train de prendre ma décision. Et puis, les autres critères, par exemple l'environnement, mais aussi on peut parler de la qualité nutritive, c'est des choses, bah déjà je regarde un steak, je ne sais pas moi combien il a émis de gaz à effet de serre, c'est pas, ça ne se voit pas comme ça. Et puis en plus, mettons que je vienne avec l'envie d'acheter quelque chose qui soit peu émetteur de gaz à effet de serre. Okay, j'arrive, je vois un steak, je ne sais pas combien il émet, et puis je vois un poulet, je ne sais pas. Bon, j'achète le steak. Comment je vais savoir que j'ai fait une erreur? Maintenant, on va comparer avec...
C'est ça.
Puis je ne peux pas le voir directement, je ne peux pas le vérifier, puis je n'ai jamais ce qu'on appelle du feedback. Quoi. Je n'ai jamais ça. Alors que si je fais une erreur, par exemple, j'achète un steak, puis en fait, je n'aime pas ça. Ben, je vais le savoir quand je vais le goûter. Je vais dire, ben, c'est pas bon, j'en rachèterai pas. Mais là, jamais je sais, j'ai pas mon steak qui me regarde droit dans les yeux puis qui me dit, mais moi, j'ai émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, de la même façon, mettons qu'on en achète du steak, puis on le sait, nous, que ça, c'est pas bon pour la planète. Ben, est-ce que pour autant, vous allez sortir du magasin, puis là, vous allez avoir d'un coup...
Un nuage de gaz à effet de serre au-dessus de la taille.
C'est ça. Donc, en fait, l'impact, il est collectif. C'est pas vous qui allez avoir du mal à respirer, c'est peut-être votre enfant ou le mien ou le fils de votre voisin ou le petit-fils. Donc c'est pas immédiat, c'est collectif, c'est pas facile à évaluer, c'est compliqué.
Mais ça, c'est le combat éternel des changements climatiques. Comme tu l'as dit tantôt, ce qui fait en sorte qu'on est conscientisé et qu'on met l'environnement dans le top de la liste de nos priorités, c'est le fait qu'on commence à constater les conséquences. Ça, c'est la nature humaine, je pense. Tant que tu ne constates pas les conséquences ou les impacts d'un choix, ben, tu ne vas pas agir.
Exactement, mais tu comprends que là, tu es au supermarché, puis l'impact, tu ne le verras pas immédiatement tout de suite.
Ouais.
Donc là, tu fais un choix immédiat. Puis les conséquences, tu les observes peut-être plus tard. Est-ce que tu relis vraiment ça à... Ah oui, le 27 avril, là, j'ai acheté un steak, c'est de ma faute, tout ça. Ah. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre... Oui, je suis conscient qu'il y a des problèmes climatiques, je vois bien. Puis il faut qu'on change nos pratiques de consommation. Puis on peut tous identifier, faire notre introspection, puis identifier des trucs où on aurait pu faire autrement. Mais... Alors ça, c'est vrai. Puis ce qui est vrai aussi, c'est que quand on fait nos choix au quotidien, bah, ce n'est pas forcément la chose qui va être très facile à intégrer dans nos choix.
C'est ça.
Donc l'enjeu, c'est de le rendre plus facile.
Mais c'est pas présenté. Donc quand on est rendu à faire le choix, ben, il n'y a rien qui va nous faire pencher plus d'un côté que de l'autre, sauf notre appétit ou notre besoin immédiat.
Mais donc, moi, m'amène la réflexion, le commentaire d'Evric, c'est vers là que je voulais m'en aller. On a parlé tantôt, on suppose que tel type de viande, tel produit est plus, justement, plus... Voyons. A émis plus de GES qu'un autre. Mais pourquoi pas l'indiquer à l'aide d'un indicateur justement clair, au même titre qu'on a le prix, qu'on a le nom de la viande, sa coupe. Pourquoi pas dire, ben parfait, voilà, j'ai tant d'émissions de GES induites par cet aliment-là. C'est-tu quelque chose qui est envisageable à court moyen terme? Pourquoi ça se fait pas actuellement?
Alors, pourquoi ça se fait pas? Ça, c'est au niveau politique qu'il faudrait le demander. Mais oui, c'est envisageable. Et puis, il y a certaines zones du monde dans lesquelles ça commence à se faire. En Europe, ils ont toute une réflexion sur ben, qu'est-ce que ça devrait être, un étiquetage environnemental sur un produit. Mais on l'a déjà pour certains produits. Quand vous achetez de l'électroménager, vous avez de la consommation énergétique.
C'est pas les gaz à effet de serre,
mais il y a des indicateurs. Ben, moi, je viens de France. En France, c'est obligatoire depuis des années sur les produits électroménagers. On a une lettre, et puis on voit si c'est A, c'est que c'est bon, ça ne consomme pas beaucoup. Puis si c'est E, ben on sait ce qu'on achète. On peut comparer les produits. Donc pourquoi pas le faire sur l'alimentation? C'est sûr que c'est une façon finalement de rendre l'évaluation de ça facile immédiatement au moment de l'achat.
Ouais.
Donc nous, dans nos recherches, on étudie justement qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme système pour aider le consommateur à faire... À prendre en compte, en tout cas, cette caractéristique-là dans ses choix. Après, voilà, on ne va pas le forcer à prendre le produit A, mais qu'il sache au moins, bah, OK, j'ai A, B et E, si je choisis E, je sais, au moins, je l'ai fait en connaissance de cause. Donc, ça, c'est faisable. Il y a quand même un gros enjeu, puis on l'a en particulier au Québec, c'est les données. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter, on dit oui, viande rouge, etc. On a l'air bien intelligent, là, mais bon, entre le biscuit A, le biscuit B, etc., calculer l'impact environnemental de tout ça, c'est pas si simple que ça.
Ouais.
Et puis donc, ça coûte cher, ça prend du temps, puis Il y a certaines données là qu'on n'a pas. Puis alors, un autre problème là-dessus, hein, c'est que là, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de gaz à effet de serre, hein, de GES.
Ouais.
Il n'y a pas que ça comme impact environnementaux qu'on devrait prendre en compte. Donc, il y a aussi l'eau, hein, la pression sur l'eau, la biodiversité, etc. Il y en a énormément. Lesquels on met ? Puis pourquoi on met celui-là plutôt qu'un autre ?
Ben moi, je m'appelle l'avocat du diable. Un score, développement ouais. durable. Tu sais, une note qui tient compte, il est simple pour l'acheteur, qui tient compte de toutes ces sphères-là. Puis ouais. là, je vois déjà l'enjeu, justement, des données, de comment on calcule ça, de combien ouais. ça va coûter. Puis là, après ça, je me dis, ah, justement, si tu légifères en ce sens-là, tu l'obliges. Moi, ouais. c'est comme un plan merveilleux dans ma tête. Là.
Mais alors, y a la réponse à cette question-là, les Européens sont plus avancés que nous sur la chose. Donc, ils ont collecté plus de données depuis plus okay. longtemps. Et ils ont des bases de données dans lesquelles il y a les GES associés à une recette. Tu peux aller regarder mon couscous, là, j'ai tant de grammes de smoult, etc. Puis tu peux calculer combien il y a de GES, mais aussi d'autres paramètres. Et puis, le système qui est actuellement... En test au niveau français notamment, bah, c'est exactement basé sur cette idée de mettre un score global. Donc on va mettre une pondération pour les gaz à effet de serre, on met une grosse pondération parce que c'est quand même un enjeu
important.
Immédiat, le changement climatique, mais on en met aussi sur plein d'autres aspects. Mais ça, même ça, en fait, ça fait débat. Parce que par exemple, bah, ça fait qu'il y a certains produits, mettons des produits bio, des produits locaux, qui n'ont pas un score si génial que ça, parce que... Bah, oui, ils contribuent, par exemple, à l'économie locale, si c'est des produits locaux ou aux services écosystémiques, etc. Mais bah, dans la pondération qui est donnée pour ces scores-là, on a fait le choix de mettre plutôt en avant certains aspects, par exemple les gaz à effet de serre, que les services écosystémiques, mettons. Pour des raisons tout à fait scientifiques et claires, mais qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Puis c'est vrai que ça dépend de l'angle qu'on regarde. Si on regarde le territoire, par exemple, la protection des paysages, etc., bah, l'élevage bovin, ça contribue. Voilà, on est pas trop ici, mais en France, vous avez des vaches dans les champs, ça entretient les pâturages, etc. Enfin bon, y a tout un tas de bonnes raisons de dire qu'il faut maintenir notre agriculture, et puis c'est important, puis c'est du local, etc. Oui, tout ça est vrai. Mais quand on veut faire un score environnemental, bah, c'est quoi qu'on reflète par ce score ? Et bah, pour répondre à cette question, il faut pondérer. Voilà. On va mettre un gros poids au gaz à effet de serre, mettons. On va mettre un plus petit poids à la contribution au paysage. Oui, c'est important, mais... Puis après, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une objection, qui va dire, bah oui, mais là, ça veut dire que tel produit, il est pas... Enfin, tu préférerais qu'on l'enlève et puis qu'on aille importer des lentilles de l'autre bout du monde. Bah, en fait, d'un point de vue de gaz à effet de serre, par exemple, ça pourrait avoir du sens. Donc, c'est pour dire que oui, il y a l'aspect scientifique des données, mais il y a aussi l'aspect débat, et puis à quoi est prête la société. Et puis ça, ça va dépendre ouais. beaucoup du politique.
Puis même, là, on parle de venir quantifier ça, puis mettre des pondérations, tout ça, ça peut varier d'un pays à l'autre en fonction des objectifs. Ben oui. Mais même au niveau plus qualitatif, j'ai l'impression qu'on est vraiment déconnecté des aliments et des biens qu'on consomme. On ne sait pas vraiment ça vient d'où, ça passe par où. Je ne sais pas si c'est clairement un enjeu, là, parce que ça va nous impacter au niveau de notre consommation. Mais est-ce que je suis toute seule à me sentir de même? Moi, j'ai l'impression que le steak que je vais acheter à l'épicerie, c'est juste un steak tombé du ciel. Il est rouge, puis il est beau, appétissant.
Ouais,
mais... T'sais, on sait pas, on n'a pas en tête l'animal qui se fait trancher la gorge, puis après qui passe à la boucherie. T'sais, hier, on a fait une fondue, puis j'ai servi du canard avec des plumes de canard. Il restait quelques plumes.
J'avais jamais vu des plumes de canard jusqu'à ce qu'Evrick nous en serve, c'est ça, qui a chassé lui-même. C'est pas normal dans un sens. Là.
C'est pas normal d'en servir déjà, mais
ça. Ouais. ouais, ça, on a eu le débat longtemps.
Normal.
Ouais, c'était relatif.
Ça, c'est tout à fait vrai, puis tu soulèves vraiment un point qui est très important, c'est que de plus en plus, on constate que les gens sont déconnectés de la production agricole. Ouais. Si on regarde le pourcentage d'agriculteurs dans la population, il a diminué en chute libre là depuis voilà peut-être la génération de vos grands-parents ou arrière-grands-parents ils connaissaient en tout cas ils étaient peut-être agriculteurs il y avait peut-être un agriculteur ou au moins
il y avait tout leur jardin où il y avait des poules voilà, dans leur cour
on puis... était connectés on allait voilà au moins visiter un cousin à la campagne qui avait une ferme etc maintenant là ouais. les gens pas de, beaucoup d'exemples dans notre entourage de gens qui travaillent vraiment, qui ont des exploitations agricoles. Et donc, voilà, les enfants, en fin de semaine, on les emmène au centre commercial, on les emmène plus à la ferme chez
ma
grand-mère.
Ma mère me disait qu'elle grandissait près d'une ferme et qu'elle y allait régulièrement. Moi, absolument, jamais. Elle me raconte ça, mais moi, c'est pas ma réalité du tout.
Mais non, c'est ça. Et puis le Canada, c'est le secteur des services est prédominant dans l'emploi au Canada, puis comme dans beaucoup de pays maintenant. Donc ça fait que on n'est plus tellement attaché, enfin, en tout cas, on a pu un lien direct avec la production. Alors, ça fait que déjà, en partant, on voit plus trop cet aspect-là. C'est comme une boîte noire, là. Donc, quand on interroge des enfants, souvent, ils vont nous dire, on leur dit d'où vient ton chou-fleur, de l'épicerie. Puis ça s'arrête là. Puis, bon, et le lait, ça vient d'où? D'une usine, éventuellement, ils vont nous dire
je suppose d'une vache, à quelque part.
Encore la vache, quand elle apparaît, on est content, entre guillemets. Donc là, on a un problème majeur qui est qu'il n'y a pas d'éducation alimentaire, en particulier au Canada, d'où je viens. On s'interroge depuis plusieurs années sur le fait de mettre de l'éducation alimentaire à l'école, en disant, on va quand même apprendre aux enfants que les légumes, ça pousse dans la terre, et puis qu'il y a de la transformation aussi, etc., de la cuisine. Au Canada, on est très en retard là-dessus. On y vient, on essaye de faire des programmes d'alimentation scolaire intégrant de l'éducation, mais on est très en retard.
Mais pas juste alimentaire. Tu sais, là, on est dans un studio, je pense au micro dans lequel on parle, à tes lunettes.
Il n'y a pas grand-chose de fait au Québec.
Moi, étudiant en génie industriel, tu sais, je veux dire, même à ça, là, concrètement, c'est quoi l'étape 0, c'est quoi l'étape 1, l'étape 2, c'est quoi les matériaux, avec quoi c'est fait? J'en ai aucune idée, là.
C'est qui l'a fait aussi, dans quel environnement ça a été fait, c'était quoi les réglementations environnementales.
Et alors ça, c'est un problème de transparence. Puis moi, je fais des enquêtes auprès des consommateurs, puis c'est un des problèmes numéro un. Là. C'est-à-dire que les consommateurs ont besoin d'en savoir plus et qu'on leur dise un peu ce qu'il y a derrière, quand ils sollicitent cette information-là. Donc c'est vrai que on parlait de boîte noire, là, elle va effectivement jusqu'à l'industrie et puis les produits, on ne sait pas comment ils ont été faits, par qui, on n'est pas capable. C'est des systèmes mondialisés, donc il y a peut-être un bout du micro qui a été fait sur un continent, puis l'autre bout, l'autre, et puis ça a été assemblé ailleurs, puis c'est revenu au Canada. Ça, donc c'est très très compliqué et on est très peu équipé pour savoir ça. Et puis, alors, si je déroule ça et puis qu'on revient aux impacts environnementaux, l'autre enjeu, c'est que finalement, l'impact environnemental de toutes ces chaînes de valeur, de production, il n'est pas du tout reflété dans les prix de quoi que ce soit qu'on achète. Donc, c'est ce qu'on va appeler, nous, en économie, une externalité. C'est-à-dire, vous faites une transaction, je t'achète une pomme, et puis l'impact environnemental de la pomme n'est pas inclus dans la transaction. C'est externe. Donc, c'est, mettons que tu es hyper pollué la planète en fabriquant la pomme, tu me la vends, je ne paye pas cette pollution, c'est quelqu'un d'autre qui va la payer, ou la société, en fait.
Puis, ça coûte toujours moins cher de ne pas accorder d'importance à l'environnement.
Exactement. Donc ça c'est aussi une autre solution, enfin en tout cas une autre piste qui est évoquée et puis étudiée pour finalement, on parlait tout à l'heure d'impacter les consommateurs et puis de les aider à faire des choix plus éco-responsables, c'est une des pistes aussi, c'est est-ce qu'on pourrait pas remettre dans le prix des choses. Alors,
un peu comme la taxe carbone populaire, au final.
La taxe carbone, oui, finalement, elle contribuerait à faire ça. C'est-à-dire que finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne paye pas assez cher nos biens de consommation.
C'est pas ce qu'on a l'impression en ce moment.
Je ne vais pas être très populaire à dire ça, mais c'est pourtant la réalité. En termes environnementaux, si on devait payer tout ce qu'on coûte vraiment en termes environnementaux, par exemple dans nos aliments, mais dans tous les produits de consommation, on paierait beaucoup, beaucoup plus cher. Puis ce coût-là, il existe. C'est-à-dire le prix, par exemple, la pollution de l'eau, de l'air, etc., ça a un coût sociétal. La pollution de l'air tue beaucoup. Mais... ça coûte des frais de santé, etc. On le repaye hein, d'une façon.
Mais justement, mettons que j'ai un verger, là, c'est moi là, qui devant la pomme. Là, puis moi, je me dis, pour moi, le développement durable, c'est important. Pour moi, ça fait partie de ma marque. Donc, je veux charger à mon client l'impact environnemental. Donc, je vais être plus cher que les autres, mais c'est correct, je m'assume. Mais je veux dire, moi, j'ai un verger. Là. Je le calcule comment, mon impact environnemental?
Ben oui, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est qu'on a organisé, finalement, toute notre vie en se disant, oh, ça, c'est un peu... on va pas en prendre... on va pas le...
on le
tenir
compte.
Et c'est pour ça que, finalement, il y a besoin d'une intervention... par exemple, au niveau gouvernemental, disant, OK, bon, on sait qu'un verger, ça coûte environnementalement tel niveau de GES, mettons. Bah, ce niveau de GES, tu l'as produit, tu as fait tant de pommes par an, ça nous a coûté tant en GES, bah, là, on te le taxe. Okay. Puis là, tu vas finalement le répercuter sur les prix. Donc, c'est un petit peu, j'ai super simplifié le truc, mais c'est un petit peu le principe. Mais là, actuellement, si tu veux, tout ce qu'on émet, etc., comme pollution de l'air et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, mais il n'y a rien de gratuit sur cette terre.
Il y a le niveau pollution, puis il y a aussi l'impact sociétal puis social.
Absolument.
Je repense à notre épisode avec Abby Marino sur l'industrie de la mode. Abby nous a dit exactement la même chose. Là. C'est pas normal qu'on paye un vêtement 5 $ là. Ça a été fait, il y a eu beaucoup de temps de mis pour faire le vêtement.
Absolument.
Et au final, ça nous coûte 5 $, ça fait aucun sens.
Et y a eu le débat également, moi ça m'évoque aussi, le débat qu'il y a eu récemment dans la ville de Québec sur la taxation des immatriculations et tout ça, puis il y a eu quand même des données qui ont été... qui sont sortis à ce moment-là pour dire, effectivement, quand on roule avec une voiture sur une route, on coûte en fait beaucoup plus cher que ce qu'on paye. Ouais. Et ça, il n'y a pas de raison que ça soit juste le transport en commun, mettons, qui paye ça, qui assume ce coût. Donc c'est vrai que ça, c'est des débats de répartition des coûts, finalement, qui sont très actuels, parce que pour le consommateur, on le disait au début, quand on fait un choix au supermarché, ce qu'on regarde, c'est le prix, entre autres. Bah, c'est sûr que le prix, s'il intègre davantage le coût environnemental, ça va changer la donne, hein, ça va changer les prix relatifs. C'est-à-dire que mes lentilles de tout à l'heure, là, elles vont coûter relativement moins cher par rapport au bœuf si j'intègre dans le bœuf tous les impacts environnementaux. Alors bon. À nouveau, opinion impopulaire, mais c'est la réalité. C'est ça que, en tant qu'économiste, on peut dire.
Puis en tant que consommateur, là, quand on achète un bien ou un aliment à l'épicerie, on a le prix qui nous impacte. Ensuite de ça, on a les ingrédients, encore pour notre propre santé. On a les valeurs nutritives, mais on n'a rien justement pour l'environnement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait regarder qui pourraient nous permettre de dire, faire un choix plus... environnementales, mettons, comparer, je sais pas moi, un consul de bleuet avec un autre, on a-tu des pistes de solutions actuelles qu'on pourrait utiliser?
Tu veux dire au niveau de l'information qu'on peut donner, en plus de l'information environnementale?
Ouais.
Ouais.
En tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut faire un choix plus éclairé?
C'est une bonne question, parce que c'est vrai que la durabilité, c'est pas juste l'impact environnemental, n'est-ce pas? C'est vraiment, il y a trois piliers. Hein. Ouais. J'imagine que vous en parlez dans votre podcast. Il y a l'environnement, il y a l'économie, puis il y a la société. Mmh. Et puis, tu donnais l'exemple des bleuets, c'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la pandémie, on voyait qu'il y avait un problème de main-d'œuvre. Là, on n'arrivait plus à faire venir la main-d'œuvre, parce que les frontières étaient fermées. On se souvient de ça. Ça veut dire que, en fait, les bleuets locaux, parfois, ils sont... ce qui n'est pas local, c'est la main-d'œuvre qui est venue pour cueillir ces petits fruits-là. C'est ça que ça a mis en avant, dont on n'était pas forcément conscient. Ou alors, à nouveau, on le savait, mais on le mettait un peu sous le tapis. Alors, ça veut dire que ces travailleurs-là, parfois, ils ne sont pas dans des bonnes conditions. Il y a eu quelques scandales qui sont remontés à ces occasions-là. Et puis, c'est quelque chose qu'on ignore totalement. Quand on fait nos achats, on ne pense pas à la personne qui a accueilli les bleuets, puis on ne se demande pas, mais est-ce qu'elle est assez payée? Puis je pense que, quand je dis ça, il y a plein d'autres exemples qui vous viennent en tête de En fait, il y a des humains dans les chaînes de production. Puis ces humains-là, parfois, ils sont mal rémunérés. Puis ça aussi, ça fait la différence. Puis on parlait de la fast fashion là, tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un des éléments. Hein, c'est quand même qu'il y a des pratiques dans les usines qui fabriquent ces vêtements-là, des pratiques humaines qui sont totalement inacceptables. Et ça, ce pilier humain-là, il y a des tentatives de mieux le refléter sur les produits en mettant des labels et des certifications pour dire on a vérifié que telle charte était respectée sur les droits humains, on a été certifié cette filière, etc. Ça commence à sortir beaucoup dans la mode, hein. Sur l'alimentation, j'ai pas trop connaissance d'initiatives comme ça, à part tout ce qui relève du commerce équitable. Donc, commerce équitable, c'est vraiment la rémunération juste des producteurs tout au long de la filière. Donc, quand vous achetez du café, par exemple, c'est l'exemple souvent, un café
au chocolat. Oui, bien, URC, notre commanditaire, justement certifié équitable.
Donc ça veut dire que on s'engage dans une filière équitable à rémunérer les producteurs
convenablement.
À hauteur de ce qu'ils ont fourni comme travail et que ce ne soit pas un intermédiaire, par exemple, le transporteur ou le distributeur qui se fasse toute la marge pour aucune raison. Voilà, donc, on essaye d'être juste.
Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir souvent sur des produits qui, si c'est équitable, ils vont le mettre de l'avant.
Voilà. Il y a des certifications équitables, commerce équitable. L'une des problématiques, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est pas gouvernemental. C'est pas, Environnement
c'est
Canada.
C'est pas régi par...
Non, c'est ça. Tandis que, par exemple, on parlait tout à l'heure du tableau de valeurs nutritionnelles. Ça, c'est Santé Canada. Et puis, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 50. Et puis là, même Santé Canada a dit, ça c'est pas assez lu par les consommateurs, ce tableau. Donc, on va le mettre en face avant des produits. Je ne sais pas si vous avez vu cette initiative, mais on va avoir une loupe avec, ça va dire trop de gras, trop de sucre, etc., pour aider les consommateurs à utiliser cette information. Donc, parce que c'est aussi un enjeu. On peut avoir plein d'informations sur un produit, mais par où on commence, comment on lit ça. On n'est pas tous des ordinateurs ambulants. Donc, il y a cet effort-là sur la santé et la nutrition. Mais sur le commerce équitable, sur l'environnement, on dirait qu'il y a comme un vide, là. Alors, ce vide, il est occupé par certaines marques privées, certaines certifications privées. Donc, c'est déjà quelque chose, hein, parce qu'au moins, on a une indication, mais... moi, je peux partir ma certification de commerce équitable. Vous ne me connaissez pas. Puis vous dites, OK, Laure a dit que c'était commerce équitable. Donc, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ce processus.
Donc, ça pourrait être quelque chose, justement, d'un point de vue gouvernemental, historique, qui pourrait avoir un impact positif. Là. Okay. Puis je suis curieux, tu sais, on a beaucoup nommé l'exemple d'alimentation, là, l'exemple plus récent du vêtement. Mais mettons-moi, là, dans ma vie quotidienne, là, quel secteur de consommation, quel bien de consommation... a peut-être le plus grand impact environnemental. Tu sais, je sais pas, je pense à ma voiture, je pense justement à ce que je mange le matin, je pense à, je sais pas, les cadeaux que je vais acheter. Quel bien de consommation peut-être ont le plus grand impact environnemental?
C'est une question qui n'est pas facile, parce que c'est tellement... Regarde, l'alimentation, tu peux avoir, entre si tu consommes que du bœuf ou que des la salade...
En fonction de l'alimentation de la personne.
Voilà, donc c'est un peu pareil pour tout. Hein. C'est-à-dire les autos, si tu conduis un véhicule électrique, ton impact est moins grand. Donc c'est pas tellement là-dessus qu'il faut regarder, mais... L'une des choses quand même qu'on regarde beaucoup, puis qu'on conseille quand même, c'est de regarder notre niveau de consommation. C'est pas tellement est-ce que tu prends du café bio ou du café pas bio. C'est bien, c'est déjà un pas dans le bon sens, mais les pratiques qui ont un gros impact, c'est consommer moins, réutiliser, moins gaspiller.
Réduire, c'est quoi, c'est les trois
c'est réduire, réutiliser, recycler.
C'est ça.
Absolument. Donc, ces pratiques-là, on sait qu'elles ont un impact. Et puis, je vais te donner un chiffre. Récemment, il y a une étude qui est sortie qui a montré que 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la planète venaient du gaspillage alimentaire. C'est énorme.
Juste du gaspillage alimentaire.
Gaspillage alimentaire, 10% de tout ce qu'on émet. Donc là, c'est quand même là. Là, on peut tous travailler là-dessus parce que c'est autant arrêter de manger du bœuf, etc. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être un peu difficile. Je connais personne qui est pour le gaspillage. Tu peux demander dans la rue. Là, alors toi, t'aimes ça gaspiller, mais personne n'aime ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les pratiques de gaspillage. Et puis Là, je parle de l'alimentation, puisque ça a un impact vraiment majeur. Mais on peut parler à nouveau des vêtements. On peut parler de plein de choses où on en achète beaucoup.
On surconsomme.
On surconsomme à peu près dans toutes les sphères de notre consommation. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler.
Mais l'alimentation occupe quand même une grande partie, là. Si le gaspillage, c'est 10%, juste le gaspillage, ben, tout ce qu'on consomme, c'est plus que 10% au moins de
ce qu'on émet. C'est ça. C'est un des secteurs qui a le plus d'impact sur l'environnement. Là. Selon les études, c'est au niveau mondial, entre 25 et 35% des émissions mondiales qui sont reliées à l'alimentation. Là-dedans, on met tout. Hein. On met les intrants, donc les engrais, on met le transport, on met les pratiques agricoles, on met la transformation, la distribution. Tout ça mis ensemble. Les études disent que c'est déjà l'humanité, là, c'est 25 à 30% de ce qu'elle émet.
C'est énorme.
Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas réduire, hein, mais il y a des choses qu'on peut vraiment, sur lesquelles on peut travailler.
Voilà, fait que ma prochaine question, je sais pas, c'est plus de la psychologie, mais est-ce que tu aurais des éléments de réponse à ma question? C'est pourquoi, en tant que citoyen, mettons personnellement, pourquoi je vais tendre à surconsommer? Qu'est-ce qui fait en sorte que je surconsomme?
On est des êtres d'habitude, donc on a beaucoup. On est entouré d'incitations à consommer, puis on va avoir l'habitude
de la publicité.
Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de... Ça, c'est sûr, hein, c'est dans notre mode de vie.
Notre modèle économique est basé sur ça, sur la croissance.
Alors ça, c'est sûr. Il y a aussi... puis ça, c'est un phénomène aussi... Pas si récent que ça, mais en fait, on est dans une économie du temps. Donc, on veut économiser du temps. Voilà, on veut, pour faire je ne sais pas quoi, mais en tout cas, pour faire de plus en plus de choses. Finalement, ce qui a beaucoup de valeur pour nous, c'est tout ce qui nous sauve des efforts.
Des repas préparés, par exemple. Puis moi, je suis le premier à en avoir utilisé, puis en essayer.
Mais à la base, l'être humain est paresseux. On tente toujours de voir le moindre effort.
Voilà. Absolument. Et ça, c'est des choses... On a du mal à échapper à notre nature, hein, de ce point de vue-là. Donc, on va beaucoup avoir ce type de consommation qui va nous... On va avoir l'impression que ça nous rend les choses plus faciles. Ça nous rend la vie plus facile, mais en fait, ça va faire de la place pour faire autre chose, éventuellement consommer plus. Donc, on est un peu pris dans une spirale.
C'est ça.
Puis, il y a aussi pas mal de personnes qui disent, qui ont cette posture de dire il faut la décroissance, la déconsommation, etc. Alors, c'est sûr que c'est une réaction à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est on va culpabiliser les gens, puis on va dire effondrement, etc. Bon, alors déjà, c'est pas très attractif là, si je dis ça. Je pense au prochain repas de Noël. Là, si je dis qu'il faut arrêter, on arrête tout, etc. C'est difficile. Pas de cadeaux. Bon, il y a des gens quand même qui adoptent des pratiques où ils disent on va moins s'en faire, etc. Mais c'est ce que je dis, c'est une question de mesure, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on montre, ce sur quoi je voulais insister, c'est quand même que dans notre société, là, il y a comme un rejet, là, il y a comme un blocage. C'est-à-dire que on a une partie de la population, puis c'est une partie de la population qui grossit, hein, en termes de pourcentage de la population, qui va se dire, là, le morceau est trop gros. Okay, on voit le changement climatique qui arrive, ça nous arrive dessus, on ne sait pas quoi faire, puis donc on va se bloquer. Et puis on va rien faire.
On se met la tête dans le sable, puis...
On se met la tête dans le sable, puis on arrête. Puis ça, c'est vraiment une réaction de ne pas choisir, ne rien faire. C'est comme, mon cerveau se met en off. Puis ça, c'est vraiment intéressant, parce que les neuroscientifiques, alors je ne suis pas neuroscientifique, mais je vous résume une étude avec mes mots, ils ont calculé comme ça... avec de l'imagerie, hein. Ils ont regardé un peu ce qui se passait en donnant des tâches de choix. Alors, c'est à choisir entre deux options, puis on t'en présente après trois, puis tu dois faire un choix, etc. Puis ils regardent jusqu'à combien on est capable de faire des choix. Puis il y a un nombre de choix où là, le cerveau dit je choisis de ne pas choisir. Là, j'abandonne. Donc, et puis, je pense que, en fait, ça arrive assez souvent. Et ce que j'essayais de dire tout à l'heure à ce propos, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas enfermer les gens dans cette situation-là. À dire, on est submergé de trucs, on ne va rien faire. ou les messages moralisants, oui, tu devrais pas faire ça, etc. Ben, en fait, on voit, et puis on le voit monter dans les sondages, une partie de la population qui dit « Ok, stop, là, ça suffit. Puisque c'est comme ça, je vais faire un truc pire. »
C'est ça, mais c'est que c'est si simple de juste rien faire versus « Ah là, il faut que je sois conscientisé, il faut que je pose des actions. » Puis après ça, ça embarque, t'embarques dans un cycle. « Ah, mais OK, mais mettons, moi, je fais ça, là. Mais il y en a un autre à côté de moi, il décide de ne pas le faire. Ben pourquoi, moi, je le ferais? »
Exactement.
Ça tourne dans ta tête. Tu peux te sentir coupable aussi, là. Tu fais trois choses qui sont bonnes pour l'environnement dans trois secteurs différents, mais il y a deux choses que tu fais de moins bien. Là, tu te sens coupable ou quelqu'un va te faire un commentaire. Puis là, ben...
Mais c'est exactement. C'est donc, négatif. On est capable de faire des gros efforts sur une petite période de temps, mais des efforts dans la durée, il faut doser. Faut se doser nos efforts. Regardez, par exemple, je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des personnes qui essayent de faire des régimes, puis qui, s'ils partent trop fort, en se disant, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de tout manger. Ils
c'est
y arrivent.
Que ça marche.
Voilà. Ouais. Ça marche un temps, puis après, un jour, ils craquent.
Exact.
Puis ce jour-là, ils consomment 10 fois plus que ce qu'ils auraient consommé s'ils avaient.
Exact.
Donc, c'est un peu la même chose, là. C'est notre régime, là, sur la consommation. Il faut qu'on le dose, parce que sinon, on va perdre la moitié de la population qui va dire non, là, laisse tomber, moi, je démissionne, finalement.
Mais pour conclure, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas de mettre, mettons, quelques points de l'avant. On ramène notre question initiale, tu sais, comment mieux et moins consommer.
Mm-hmm.
Mettons, je ne sais pas, quelques éléments avec lesquels on peut repartir concrets. Comment je peux mieux et moins consommer en tant que citoyen?
Ben, je dirais déjà, regarde ton gaspillage, regarde tes pratiques.
Okay.
Dis-toi, peut-être que l'une des choses avec lesquelles tu peux repartir, c'est de te dire, le choix, ce n'est pas forcément option A versus option B. C'est peut-être de ne prendre aucune de ces options, puis est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose-là?
Intéressant.
Donc ça, c'est vraiment une chose. Puis l'autre piste, c'est de se dire parfois... Au contraire, qu'on a un choix alors qu'on pense qu'on n'en a pas. Par exemple, pour faire moi, j'ai fait des enquêtes sur les trajets courts, la mobilité courte, OK? Mettons, dans les 2 kilomètres autour de ta maison. Pourquoi tu prends ta voiture? Tu prends ta voiture parce que tu as l'habitude de prendre ta voiture.
Exact.
Puis ça, c'est vraiment ancré dans nos processus de décision. On est très, très adepte de l'inertie. L'habitude, le par défaut, ça marche à fond. Si un jour je te dis, ben oui, mais là, tu sais que tu aurais pu prendre ton vélo s'il fait beau, ou tu aurais pu y aller à pied, puis je te dis, tiens, tu vois, tu avais un choix, en fait.
Ouais.
Là où tu n'en imaginais pas.
C'est vrai.
Et il y a pas mal de situations comme ça. Là, tu peux faire l'analyse dans ta vie, autour de toi. Il y a certaines choses que tu fais parce que tu penses que tu n'as pas le choix. En fait, parce que tu ne penses pas. Tu te dis juste, je le fais, c'est comme ça. Mais dis-toi, il y a peut-être des alternatives.
C'est de remettre en question ce qui nous semble évident, puisqu'on est habitué de faire.
Est-ce qu'il existe une option éco-responsable? Puis je ne te parle pas de construire un tramway autour de ta ville, parce que ce n'est pas toi qui vas faire ce choix-là. Ça, c'est le choix du gouvernement, etc. Donc là, je ne dis pas, tu n'as pas pris le tramway parce qu'il n'y avait pas de tramway. Donc voilà, on se ferme. Mais là, c'est, OK, tu as un petit trajet. Est-ce que tu as d'autres façons de le faire? Et puis, si la réponse est oui, bah, dis-toi, tiens, pourquoi je ne le fais pas? Puis, puis après, voilà, en faisant un peu une espèce d'audit là, de tous les choix qu'on fait dans la vie, de tous les comportements qu'on a. Il y en a certains, c'est difficile de les changer, puis je ne commencerai pas par là. Mais ceux qui sont très simples et qui sont faisables, bah, autant y aller.
Comme l'alimentation, comme tes déplacements.
L'alimentation, voilà, rajouter des petites choses de temps en temps, puis y aller comme ça. Bah,
un changement d'habitude graduel.
Voilà, et puis surtout de prendre le temps d'y penser et puis de se dire, OK, je vais réfléchir à mes pratiques, puis sans être dans la culpabilisation, parce que voilà, aujourd'hui, tu as emballé ça de ton truc dans un Ziploc et pas dans un papier de cire. Bah, ça arrive, et puis c'est vaut mieux faire des efforts qu'on est capable de maintenir dans le temps, plutôt que de faire des trucs là, drastiques, on arrête tout, et puis non, c'est beaucoup plus difficile.
Ben, merci beaucoup, Laure. C'est très intéressant.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup.
J'espère avoir répondu à vos attentes et à vos questions.
Même plus. Merci beaucoup.
Parfait, merci.